de choses qui pourraient renvoyer à une telle position. Tout d'abord, un travail réalisé au milieu des années 2000 par l'artiste sonore Eric Lacasa, qui est sorti sur disque, qui s'appelle Air Ratio, et qui est une sorte d'inventaire des bouches d'aération dans Paris. Donc, je vous fais écouter la bouche d'aération de l'Institut Pasteur, dans le 15e arrondissement. j'arrête ici. Donc on a écouté trois extraits. En fait, l'inventaire se décline de cette manière-là. Ce sont à chaque fois des captures de 2 minutes sans traitement de différentes souffleries dans Paris. Et là, on a écouté donc tout d'abord, on en a écouté trois, celle de l'Institut Pasteur dans le 15e, puis celle d'un appartement, celle qui était bruyante, on entendait plus des voix qui pouvaient surgir comme ça. Et enfin, à la dernière, une soufflerie des toilettes de Radio France. Donc là, on est dans dans cet autre rapport que j'évoquais, de l'écoute, dite écoute du champ social. Je passe à un autre extrait, qui est là une pièce de Peter Kuzak. Donc on reste dans le cadre du field recording. Je vous la fais écouter d'abord, puis ensuite j'en dis quelques mots. Donc, on pourrait se dire, bon, enregistrement de chants d'oiseaux, de la faune classique, comme on en trouve tant d'exemples dans l'histoire du field recording. Sauf que cet enregistrement vient là d'une série que Peter Kuzak a commencé il y a quelques années, qui s'intitule Sounds from Dangerous Places, et qui est donc à chaque fois des prises de son dans des endroits dangereux, hostiles à l'homme. En l'occurrence, ici, Tchernobyl, le site de Tchernobyl, encore dans une partie encore interdite à l'humain, sinon sans scaphandre. Et en fait, comme ça dans sa série, on trouve aussi des enregistrements près des puits de pétrole, dans des zones sismiques extrêmement dangereuses. Donc à chaque fois, il va dans ces endroits-là, et ce qu'il nous donne à entendre à travers ces chants d'oiseaux de Tchernobyl, sans que nous, on y soit, en tant qu'auditeurs, eh bien... c'est une expérience assez étrange, une fois qu'on est informé de l'origine des sons. C'est une expérience d'écoute dégagée du contexte oppressant de la nature, même du lieu enregistré. Ça, c'est ce que dit Kuzak, par exemple, je le cite. « J'écoute un paysage, une faune à la richesse sonore extrêmement rare. J'écoute un site où la nature, la vie, a repris ses droits après la catastrophe, quand bien même ce site est toujours déserté car interdit pour les humains avec ses villes fantômes. » Grosso modo, c'est l'écoute décontextualisée ici qui vient problématiser, à distance un contexte qu'on pourrait trop rapidement ranger dans une certaine catégorie si on était informé de son origine. C'est d'une certaine manière un retournement de l'écoute schizophonique, là, pour reprendre un terme développé par Schaeffer, mais cette fois-ci Murray Schaeffer, sur lequel je vais revenir et qui pose problème aussi par rapport à ça. En tout cas, il y a un jeu qui se joue là entre l'écoute naturaliste, on pourrait dire, qui accompagne bien des pratiques du field recording et son inscription sociale extrêmement forte, extrêmement dure, compte tenu de son histoire propre. Alors, je poursuis justement avec en essayant de dégager un petit peu plus précisément ce qui peut se jouer dans ce type d'écoute naturaliste et dont on retrouve des aspects dans l'écoute des sons en ton conscient. Donc il s'agit, on l'a vu là avec les derniers exemples, toujours de considérer l'inscription socio-historique, l'inscription culturelle, mais aussi technique, économique, politique de l'écoute. Mais finalement, cet aspect touche à la nature même de l'écoute, qui est modelée par cette inscription socio-culturelle, économique, politique et technique. Au sens où nos oreilles, nos organes même, sont malléables et nos attitudes et comportements d'écoute se sont transformés, se transforment continuellement au gré des outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, comment l'introduction du téléphone à la fin du 19e siècle a considérablement changé le rapport à l'écoute, la posture de l'écoute. On trouve comme ça, là je renvoie au livre de Jonathan Stern, The Audible Past, qui est une histoire culturelle de la reproduction sonore et de l'écoute que ça introduit, avec il est allé dans les archives, par exemple des laboratoires Bell, où on voit des descriptions très attentives des déplacements du corps, de la tête, que produit le téléphone dans l'écoute. Et donc des postures et des comportements d'écoute qui sont transformés. Alors, ces transformations donc touchent aussi au comportement induit par les appareils qui nous assistent dans l'écoute. Et ces appareils sont quantité, hein, du phonographe jusqu'au smartphone aujourd'hui. En tant qu'objet technique, ces appareils impliquent des gestes en partie issus de technologies proches plus anciennes. Par exemple, le smartphone reprend et adapte des gestes issus à la fois du téléphone et du baladeur, mais aussi produisent de nouveaux gestes, usages qui modifient notre rapport à l'écoute, notre rapport à la communication, notre rapport à l'environnement immédiat et plus largement notre rapport aux autres, c'est-à-dire notre rapport social. D'une certaine manière, ces appareils appartiennent à la classe d'objets que le philosophe italien Giorgio Agamben, que j'évoquais au début, nomme, et là c'est un concept qui reprend à Michel Foucault, des dispositifs. Tous ces appareils d'écoute seraient des dispositifs. Et dans le petit livre qu'il a écrit où il décrit ce concept, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?», il utilise notamment le téléphone portable comme un cas exemplaire de ce dispositif. Et le philosophe, là, se montre extrêmement critique vis-à-vis du téléphone portable en raison, nous dit-il, de l'abstraction accrue des rapports entre individus que cette technologie produit. Ainsi, Agamben définit le dispositif comme tout ce qui, je le cite, tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Voilà ce qui est un dispositif. Et bien entendu, ces dispositifs débordent les appareils techniques. Le langage lui-même, tel que l'analyse Agamben, serait un dispositif. Et on a bien vu, comme j'évoquais précédemment, comment, initialement, l'écoute esthésique apparaît non pas avec des appareils de capture audio, mais par la description littéraire. Décrire par l'écriture les sons participe déjà d'un dispositif qui vient modifier, modeler les comportements, modifier l'écoute. Alors, que l'on soit critique ou non envers ce dispositif, comme peut l'être par exemple Agamben vis-à-vis du téléphone portable, il conditionne néanmoins notre écoute. Et ces dispositifs d'écoute ne sauraient être niés ni sous-estimés dans la compréhension des rapports à l'écoute, notamment actuels, inscrites dans le quotidien, qu'elles soient mondaines, inscrites dans le monde, ou musicales. En ceci que ces dispositifs, eh bien, en sont les vecteurs implicites. Ils transforment la conduite de l'écoute. Et sans doute, d'ailleurs, au-delà de leur usage propre, la manière dont le téléphone portable a transformé notre écoute dépasse le moment où nous utilisons notre téléphone. Alors là, c'est intéressant si on se rapporte à ce que j'évoquais précédemment concernant Schaeffer, puisque Schaeffer, lui, justement, est toujours tout à fait conscient et fait réintervenir cette pensée du dispositif audio-technique dans sa pensée d'une écoute des sons en tant que son. Alors, Agamben reconnaît volontiers que les dispositifs sont vieux comme le monde, sont vieux en tout cas comme l'Homo sapiens, mais son inquiétude, telle qu'elle apparaît dans son livre « Qu'est-ce que le dispositif ?», tient au fait que selon lui, je le cite, « il semble qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. » Ce que confirmerait encore, à travers l'exemple qu'il utilise, l'omniprésence des téléphones portables, par exemple. Et en même temps, on se dégage un petit peu de ce que dit le philosophe, en dépit de tout l'intérêt de sa réflexion. En même temps, par rapport à ce que j'évoquais précédemment, on voit bien combien l'écoute moderne a patiemment été façonnée par ces technologies d'écoute, et en premier lieu par la technologie du téléphone. Ça, c'est ce que rappelle donc Jonathan Stern. L'histoire des techniques de reproduction sonore ne cesse de rencontrer celle des recherches en téléphonie, dont elles empruntent quantité d'inventions et rendent ainsi compte de connivence intime entre les technologies d'enregistrement d'une part et celles de communication d'autre part, et ce faisant entre les modes respectifs d'écoute qu'elles induisent l'une et l'autre. L'histoire de l'écoute, au moins depuis l'invention de l'enregistrement, serait une histoire d'appareils et d'instruments. Ou, au-delà, l'histoire de l'écoute serait toujours une histoire de dispositifs d'écoute. Aussi, là, placé dans notre contemporanité, on peut se demander si parler d'écoute non médiatisée, autrement dit une écoute qui échapperait au dispositif, fait sens aujourd'hui. Et incidemment, pour revenir là, mais de manière plus critique, sur le concept de Murray Schaeffer, si précisément ce concept de schizophonie ne pointe pas ses propres limites en hiérarchisant différents accès à l'écoute, puisque c'est finalement ce qui transparaît dans l'analyse de Murray Schaeffer, c'est que dans la schizophonie, c'est l'écoute d'un enregistrement dégagé de sa source, il y a une hiérarchie dans les écoutes. L'écoute directe, l'écoute telle que je vous parle là, serait toujours supérieure, selon Schaeffer, à l'écoute d'un enregistrement. Donc là, on voit bien que ça pose problème dans cette hiérarchie, puisque notre écoute directe est elle-même informée et modelée par l'écoute des technologies. Selon Jonathan Stern, le problème est que la connaissance même que nous pourrions prétendre avoir d'une écoute non médiatisée par les dispositifs se trouve informée par ces dispositifs, se trouve informée par les médias eux-mêmes. Je le cite, « Les techniques perceptuelles forment de plus en plus les sons, les visions, les goûts, les odeurs et les surfaces dont nous faisons l'expérience. La médialité sous-tend toujours davantage tout ce que nous affirmons connaître du sujet sensible à l'état de nature. » Et là, cette recherche d'une écoute hypothétique à l'état de nature, qui n'est pas absente de certaines recherches dans les arts sonores et les musiques expérimentales d'une écoute des sons en tant que son, finalement, ne fait d'une certaine manière que rejouer la vieille fable du naturalisme qu'évoquait déjà Foucault dans ses travaux sur les relations de pouvoir, sur le pouvoir, et notamment précisément à propos de la libération. Puisque ces écoutes, pour faire le lien avec l'écoute, ces écoutes des sons en tant que son, ces écoutes critiques, c'est toujours aussi d'une certaine manière une tentative de libérer l'écoute de ces carcans. Je vous cite Foucault, là, qui résume bien cet aspect-là. « J'ai toujours été un peu méfiant à l'égard du thème général de la libération. dans la mesure où, si on ne le traite pas avec un certain nombre de précautions et à l'intérieur de certaines limites, il risque de renvoyer à l'idée qu'il existe une nature ou un fond humain qui s'est trouvé à la suite d'un certain nombre de processus historiques, économiques et sociaux, masqués, aliénés ou emprisonnés dans des mécanismes et par des mécanismes de répression. Dans cette hypothèse, il suffirait de faire sauter ces verrous répressifs pour que l'homme se réconcilie avec lui-même, retrouve sa nature et reprenne contact avec son origine et restaure un rapport plein et positif à lui-même. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie, par exemple, ce que critique ici Foucault, par exemple chez Rousseau, hein, qui parle d'ailleurs d'écoute dans ses promenades solitaires. Puisque finalement, un tel homme n'existe pas. C'est toujours l'homme n'est pas séparable des techniques qu'il forme. L'homme n'est qu'homme, ne devient sapiens qu'au moment où il est en rapport avec ses techniques qui modèlent son corps, et notamment modèlent son écoute et dès lors son expérience du monde sonore. Mais si on glisse de la communication à la musique, c'est d'une certaine manière ce qu'on retrouve déjà à l'œuvre dans la manière, par exemple, dont Peter Zendi observe l'évolution de l'écoute musicale dans son articulation avec les instruments d'écoute que sont de l'arrangement aux prothèses phonographiques et aux machines à entendre, toute cette panoplie de technologies, de dispositifs d'écoute, et qui autorise, selon Zendi, une écoute qu'il qualifie de plastique, une écoute plastique, qu'il nomme aussi à un autre moment une écoute critique. Mais on va revenir sur ce point. Je vous cite un petit passage, c'est dans une histoire de nos oreilles. Dans cette nouvelle organologie de nos oreilles, il devient plus difficile que jamais de distinguer entre l'organe et l'instrument. Aussi, selon l'étymologie grecque de l'organon, l'organologie est-elle à la fois celle de nos organes d'écoute les plus propres et les plus proches, nos pavillons et nos tympans, et celle des instruments en tout genre, plus ou moins mécaniques ou automatiques, qui assistent nos écoutes. Donc là, de nouveau, on retrouve la complexité des positions des musiciens que j'évoquais précédemment, hein, notamment chez Schaeffer, avec cette pensée de la technologie dans l'écoute, du fétichisme, de l'autonomie, mais aussi chez Cage. Hein, Cage, comme Schaeffer, étaient des technophiles. Alors, je vous fais écouter un petit extrait, là, d'une compositrice américaine qui s'appelle Marianne Amacher, et qui joue dans son travail là sur ce jeu là de l'organon, où tendent à se confondre l'organologie de nos oreilles propres et celle des instruments, en l'occurrence ici des instruments électroniques, hein, puisqu'elle joue dans son travail sur des phénomènes psychoacoustiques où on ne sait plus si ce qu'on entend provient des machines qui produisent les sons, ou si c'est généré par notre oreille interne. Pardon. C'est ce qu'on appelle les émissions, elle joue en fait précisément sur ce qu'on appelle les émissions auto-acoustiques, hein, qui sont ces sons que génère l'oreille interne. En réalité, il y a deux types d'émissions auto-acoustiques. Les émissions auto-acoustiques générées par l'oreille interne sans stimuli extérieur, et des fréquences auto-acoustiques générées avec des stimuli extérieurs. Et donc, c'est ce qu'elle produit dans son travail, notamment avec une série qui s'appelle Sound Characters, Making the Third Ear, ce serait la troisième oreille, où on ne sait plus distinguer ce qui est propre à l'oreille et ce qui renvoie aux technologies d'émission, aux sons produits. Et ce qu'elle recherche à faire à travers ces travaux-là, c'est, elle le dit en ces termes, ce sont des danses de l'oreille. Donc là, on écoute un morceau qui s'intitule Dance Boogie. Mais... Thank you. J'en viens à la dernière écoute que je voudrais aborder, une écoute que j'intitule « Écoute réflexive ». Et écoute réflexive, car elle renverrait d'une certaine manière, elle questionnerait dans son processus même d'écoute ce rapport ambigu entre critique et fétichisme. Alors, je l'évoquais, tous les dispositifs d'écoute accompagnent et modèlent notre écoute à travers l'histoire, mais en premier lieu, c'est le cas du langage, compris comme dispositif. Le langage influence l'écoute, produit l'écoute, modèle l'écoute, y compris du silence, au sens où il rend compte, dans l'expérience, d'une épaisseur culturelle, de nouveau, pouvant au mieux souligner celle que les sons, audibles ou inaudibles, et en dépit de leur caractère abstrait, possèdent eux-mêmes. Ces dimensions sociales et culturelles que possèdent les sons eux-mêmes. En suivant, là, le lecteur assidu de Wittgenstein, qui est l'artiste conceptuel Mel Bochner, on pourrait dire que si le langage, là je cite Bochner, si le langage n'est pas transparent, c'est une œuvre connue de Bochner, que vous avez peut-être en tête, les sons, là, fin de la citation, les sons ne le sont pas moins. C'est-à-dire que les sons ne sont pas transparents non plus. Mais aussi, au sens où aussi l'usage des mots vient médier l'écoute des sons. Dans une interview de 73 avec critique Lisa Haller, Mel Bochner explicite sa pensée, donc là à propos d'une pratique visuelle, il ne parle pas des arts sonores, je le cite, « J'essaie notamment de mettre au jour notre manière de penser quand nous pensons à l'art, ce qui implique de se concentrer sur le langage. » Ça, c'est vraiment à l'origine de l'art conceptuel. « C'est l'opacité du langage et la manière qu'il a de prédéterminer la vue qui m'intrigue. » La relation qu'il y a entre les deux. On pourrait transposer ces réflexions dans le champ du sonore. Et c'est précisément un jeu sur un tel rapport entre écoute et langage que propose une pièce que je vous propose d'écouter, là. Pas en entier, mais au moins d'essayer de faire son expérience pendant quelques minutes. Une pièce du compositeur Tom Johnson de 74 qui s'intitule « An Hour for Piano », une heure de piano, une heure pour piano. La pièce consiste en une musique, vous allez l'entendre, extrêmement répétitive, qui se déploie sur la durée qu'indique le titre. Mais l'écoute de la pièce doit s'adjoindre à la lecture d'un texte qui est inclus dans les notes du livret. On doit faire les deux expériences en même temps. Et comme l'énonce Johnson dès le début de son texte, la lecture ne doit pas distraire l'auditeur en l'empêchant de se concentrer sur la musique, mais augmenter sa capacité d'écoute. Comment la lecture du texte doit produire cette concentration de l'écoute, d'une certaine manière. Le texte enchaîne alors une série de variations réflexives sur la potentielle distraction amenée par sa lecture, puis rapidement, vous allez le lire, sur l'influence réciproque à l'œuvre entre l'écoute et la lecture, créant des rythmes parallèles entre musique et lecture, où l'une et l'autre peuvent aller jusqu'à se synchroniser dans la répétition là, exacerbée de l'objet respectif de l'attention, que ce soit le texte ou la musique. Donc c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu de réflexif au sens où le texte lui-même parle de l'expérience qu'il est en train de nous faire et essaye de nous faire vivre cette expérience dans son explicitation même. C'est quelque chose de performatif, autrement dit. À travers une mise en abîme des notes de livret dans leur relation à la musique, qu'ils ont pour tâche de commenter, c'est finalement une sorte d'expérience en forme de feedback, de nouveau, qui est proposée. Et l'écoute réflexive est sans doute une écoute pensée en termes de feedback. La lecture du texte dans cette pièce produit une écoute singulière de la musique, mais cette dernière vient aussitôt troubler et problématiser la première dans l'invitation même à la concentration auditive qu'elle ne cesse de reconduire. C'est un jeu sans fin. Alors, je vous mets le texte et la musique.
Thank you. le texte est extrêmement long, il est censé accompagner, là ce n'est qu'un extrait, il est censé accompagner une heure de musique, je passe une autre, la suite.
Et donc le texte se poursuit comme ça de nombreuses pages. J'arrête ici.
Pardon, est-ce que juste la longueur du texte est calculée en faisant une lecture normale qui durerait le temps de...
Bah, il le dit justement dans le dernier, c'est pour ça que j'ai arrêté là, il le dit dans l'avant-dernier paragraphe, que si on lit le texte à une vitesse normale, on aura fini de lire le texte avant que l'heure de musique se soit écoulée. Mais par contre, si on s'arrête de temps en temps, on lit assez lentement, ça peut coïncider. En tout cas, le texte fait une bonne vingtaine de pages. C'est une expérience à mener sur une heure, bien entendu. Alors, je poursuis sur cette écoute réflexive, dernière écoute, avec cette série, une série de photographies de Christian Marclay qui inventorie les injonctions au silence qui fleurissent dans les salles de concert et autres sanctuaires musicaux. Et dans un article où elle parle notamment de cette pièce de Marclay, Marianne Massin, philosophe, écrit, je la cite, « L'exigence du silence est l'effet corrélatif de l'exécution d'une œuvre en cours. Il faudrait faire silence dans un effacement respectueux pour que l'œuvre ait lieu. Faire silence pour qu'advienne l'œuvre, que les manifestations bruyantes d'une présence perturberaient. Photographier ces injonctions et les proposer aux spectateurs, c'est ironiquement mettre en abîme les conditions traditionnelles de la réception esthétique, lesquelles supposent un spectateur ou un auditeur capable non seulement de se tenir coi et silencieux, mais encore de produire en lui le silence nécessaire à la réception, en étouffant les bruits et les distractions environnantes pour mieux mobiliser son attention désintéressée sur l'œuvre. Donc c'est tous les dispositifs, là, d'un point de vue architectural, scénographique, etc., qui produisent cette attitude esthétique héritée du romantisme, ou en tout cas de l'esthétique kantienne, qui est l'esthétique de l'écoute de la contemplation. Enfin, l'expérience esthétique comme contemplation du phénomène sonore et, ou de l'œuvre d'art. Alors, comme on a pu le voir et comme on imagine là, à travers ce que j'ai essayé de mettre en place, une telle écoute silencieuse, de nouveau, et respectueuse de l'œuvre, n'a pourtant rien d'anhistorique. Elle s'inscrit, au contraire, comme je disais, dans une longue histoire enchevêtrée de l'autonomie de l'œuvre, de l'expérience esthétique, du concert et de l'écoute musicale. Mais en même temps, quand on va dans un concert, en dépit du silence qu'il préconise chez l'auditeur, les concerts n'en demeurent pas moins, bien souvent, bruyants côté spectateur. Le moindre son imprévu résonne avec d'autant plus d'éclat qu'il trahit finalement le recueillement requis. Ça peut être les mouvements du public qui arrive en retard, un bruit de chaise, une quinte de toux, gêné, ce genre de choses. Mais dès lors qu'on ne se focalise plus sur la musique sur scène, mais sur l'espace social qui est autour, on peut entendre ce bruit du concert. Et au-delà derrière des concerts, c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les espaces qui requièrent le silence. Il y avait une série d'un artiste, là, j'essaye de me souvenir de son nom, mais il ne me revient pas, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard, mais je peux vous relater rapidement la pièce. Un artiste américain qui avait fait une série d'enregistrements, de field recording, de spectateurs à proximité de chefs-d'œuvre, au Louvre par exemple, à côté de la Joconde, ce genre de choses. Et il manifestait tout le bruit qu'il peut y avoir dans ces espaces du recueillement, de la contemplation esthétique. Dans le concert, ce sera encore plus présent d'une certaine manière, puisque le silence là est requis pour laisser place à l'œuvre. Alors, justement, quand on se place d'un point de vue d'une écoute réflexive, d'une écoute du champ social, comme je l'ai évoqué précédemment avec Ferrari, ce concert peut devenir un médium en tant que tel. Un médium pour produire des œuvres où on pourra questionner cet usage, ces comportements à l'œuvre dans le concert, questionner donc à travers une investigation. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière, mais là c'est une analyse rétrospective, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait à l'œuvre dans cette pièce, mais c'est d'une certaine manière ce qui est exposé dès sa création, une pièce comme 4 minutes 33 au Maverick Concert Hall de Woodstock, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, en 1952. En effet, si le vœu initial de cette pièce était de rendre l'écoute musicale au son du quotidien, elle peut être également envisagée comme un retournement du silence attendu du public à l'œuvre elle-même, exposant en miroir le rituel social que la seconde impose au premier. Alors, dans le sillage de cette interprétation, ce questionnement du concert est là de manière beaucoup plus explicite, parce que ça n'apparaît pas comme ça, bien entendu, dans les textes de Cage. De nombreuses pièces, et en premier lieu dès les années 60 avec Fluxus, se saisissent des codes du concert pour les interroger, voire pour le tourner en ridicule, ou, lorsque l'attention n'est pas explicite, pour considérer une sorte d'hommage presque au public en rejouant les sons que l'auditeur produit par inadvertance dans son écoute et sa lassitude. Là, je pense notamment à Cock Piece de Yoko Ono, qui est cette longue pièce de tout, de quinte de tout de Yoko Ono, qui pourrait nous faire penser à ces quintes de tout dans les concerts. Ou encore une pièce, mais là c'est pas explicite en tant que tel, comme Poem for Chairs, Tables and Benches de Lamont et Young, qui consiste, la partition qui est en une phrase, qui consiste à traîner les meubles d'une pièce dans l'espace même, et c'est le fait de déplacer les meubles qui produit qui produit les sons. Là, on pourrait penser au rituel rock qu'il pouvait y avoir à une certaine période, qui se perd un peu de casser les chaises, notamment pendant l'écoute du concert. Ou je pense à une... Chez Fluxus, il y a plein de pièces comme ça. Je pense aussi à une pièce d'Emmett Williams qui s'appelle Duet for Performance and Audience, où le musicien sur scène, comme un jeu de perroquet, imite le public, se fait le miroir du... Et c'est étonnant parce que c'est des pièces qui arrivent avant les travaux de Dan Graham, par exemple, sur le miroir et le rapport au public. Mais il y a des choses très similaires là, qui se font du point de vue plus audio, en tout cas de l'écoute. Donc, en reflétant, voire même en problématisant l'activité du public et les conventions institutionnelles du concert, ces pièces en appellent donc à ce que je nommerai une écoute réflexive. Et là, je me sers d'une réflexion que met en place sur les attitudes, ce Peter Zendi, de nouveau, sur les attitudes des auditeurs dans les concerts. Et il nous dit ça en ces termes. Le concert est aussi un théâtre où le public s'observe, lui-même. C'est un espace où l'on vient regarder ceux qui écoutent, où l'on se rend pour voir écouter, voire pour écouter écouter. Et c'est bien ça. Quand on va dans un concert, on n'écoute pas simplement la musique, hein, si on est honnête. On écoute aussi les autres écouter. Ou comme le faisait Alvin Lucier avec Music for Solo Performer, on écoute le musicien écouter notre écoute. Et de nouveau, ce feedback, cette ronde de l'écoute qui se met en place. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur d'un travail récent de l'artiste basque Matine, à travers une série de performances qu'il appelle Object of Salt, et qui utilise précisément la situation du concert comme un unique matériau pour le concert lui-même. Un jeu réflexif sur le concert. En quoi consiste cette pièce? Il revisite le protocole mis en place par Alvin Lucier dans I'm Sitting in a Room, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est une pièce assez connue, mais très rapidement, si tout le monde ne la connaît pas. Lucier enregistre un texte, qui est d'ailleurs le protocole de la partition, donc qui explique ce qu'il va faire. Et donc il nous dit, je suis assis dans une pièce différente de celle dans laquelle vous êtes, et je vais enregistrer ce que je suis en train, j'enregistre ce que je suis en train de dire, et quand j'aurai fini, je vais rejouer cet enregistrement dans le même espace. Et il répète comme ça le processus, c'est-à-dire qu'il réenregistre la diffusion du programme enregistrement, puis enregistre la diffusion de l'enregistrement de la diffusion, etc., etc., etc. Au fur et à mesure, le discours est noyé par les fréquences de résonance qui viennent absorber, manger comme ça la parole pour ne laisser apparaître que des rythmes. C'est exactement le même processus qu'utilise la Matine, mais en concert et sans discours, sans phrase enregistrée. Donc, une sorte de feedback avec un delay. Diffusion d'un enregistrement. Donc, deux micros, comme vous voyez, et il se tient stoïque sur scène, sans bouger, sans parler. Et les micros captent l'ambiance du concert. Donc là, on ne voit pas sur cette photo, mais c'était un concert à Glasgow, il y avait pas mal de monde. Et sur une séquence précise, l'enregistrement est rejoué et vient s'ajouter au nouvel enregistrement. Donc une mise en boucle de cette manière, une réinjection de la résonance. Mais une réinjection de la résonance de l'espace dégagée ici de toute autre intervention de la part de l'artiste. Donc Matine, l'artiste, se tient debout, silencieux, fait face au public au milieu d'une scène, laissé vide, en dehors de deux microphones placés en vis-à-vis, et semblant s'écouter l'un l'autre, et captant tout événement sonore qui pourrait advenir durant la performance. Donc le dispositif se réduit à ces seuls éléments. Et après quelques minutes de silence, les premiers bruits d'impatience se font entendre et sont automatiquement pris dans la boucle générée. Puis, ce sont des apostrophes. Le départ de quelques membres du public énervés et surtout, très rapidement, le dialogue qui commence entre le musicien et le public. À travers les apostrophes, le public vient sur scène, commence à parler avec l'artiste, etc. et qui, toujours continuellement, sont introduits dans le feedback continu, dont le volume croissant, feedback, hein, dont le volume croissant remplit peu à peu l'espace d'un air scène composite jusqu'à faire vaciller l'écoute dans un repli sur elle-même, mais ouvrant dans le même temps à une situation caractérisée par l'indétermination. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça évolue. Alors, une telle performance joue, bien entendu, d'une écoute réflexive, mais reste néanmoins inscrite et rendue possible par son cadre institutionnel, qu'elle entend critiquer. Donc là, on est dans un héritage hein, de la critique institutionnelle développée par Michael Escher, Hans Haeckel, ces artistes-là. Elle manifeste donc une mise en abîme de l'écoute musicale qui à la fois interroge les normes qui structurent cette écoute, qui conditionnent l'écoute musicale, et en même temps tente une ouverture des possibles, nécessairement non garantie, nécessairement fragile, en opérant un retour de l'attention esthétique sur elle-même. Mais en même temps, on pourrait se poser cette question, et je finirai sur cette question, où se retrouvent sans doute le fétichisme et la critique. La réflexivité de l'écoute est-elle tout simplement possible ? L'écoute est par nature elle-même silencieuse. Ce que reprend le feedback de Object of Thought n'est autre en effet que les silences de cette écoute, puis les apostrophes, mais au départ c'est le silence de l'écoute, comme Alvin Lissier dans Music for Solo Performer, et donc à la suite tous les échanges qui en découlent. Dans l'épilogue du petit livre de Peter Zendi que je citais tout à l'heure, L'histoire de nos oreilles, écoute, Zendi reprend deux notes de Marcel Duchamp qu'il commente. Je vous les cite, comme ça, c'est les notes de Marcel Duchamp. On peut regarder voir, on ne peut pas entendre entendre. Autre note, écrite plus tard par Marcel Duchamp. On peut voir regarder, peut-on entendre écouter, sentir humer, etc. Point d'interrogation. De la contradiction soulevée par Duchamp et issue de l'a priori silence auquel serait condamnée l'écoute, Peter Zendi, là, tire un fil extrêmement intéressant qui se tisse dans l'inframasse de la variation entre ces deux versions de la même réflexion, c'est-à-dire le passage du non-intentionnel à l'intentionnel, qu'on peut repérer entre les deux formulations de Duchamp. Car c'est finalement dans ce glissement de l'entendre à l'écoute que s'en poindre la possibilité d'une certaine réflexivité de l'écoute. La négation... comme on l'a entendu, la négation de la première formulation, on ne peut regarder voir, on ne peut entendre entendre, devient dans la seconde formulation une question ouverte, indécide. Peut-on entendre écouter ? L'écoute adressée avec attention et intention, là, énoncerait d'une certaine manière un tel possible, cette écoute réflexive qui jouerait du rapport entre fétichisme et critique, celui donc d'une écoute entendue comme réflexion, c'est-à-dire où naît de manière performative ce petit décalage de soi, où on s'écoute écouter. Et ces dernières œuvres que j'évoquais, mobilisant une telle écoute réflexive, seraient d'une certaine manière, s'inscriraient d'une certaine manière dans une telle potentialité que Zendi nomme critique, c'est-à-dire la mise en place d'un second stade, si vous voulez, de l'écoute critique, qui n'est plus simplement cet écart ou cette écoute différenciée, mais une écoute critique qui prendrait compte du fétichisme à l'œuvre dans l'écoute critique du premier stade elle-même. Zendi écrit cette petite phrase admirable, « S'écouter et écouter, si c'était possible, telle serait en effet la première condition requise pour ouvrir quelque chose comme une écoute critique. » Alors, quand Zendi traite de cela, il ne parle pas du tout des artistes dont j'ai pu parler ici. C'est une réflexion sur l'histoire de l'écoute en tant que telle. Mais en tout cas, c'est dans ce retournement de l'écoute sur elle-même, dans les arts sonores et les musiques expérimentales là plus spécifiquement, que se ferait peut-être également jour ce par quoi un fétichisme de l'écoute, en tout cas son interrogation, permet et autorise ce deuxième rapport, cet autre niveau de l'écoute critique. Et rappelant une nouvelle fois, dans la manière dont cette écoute advient, combien l'une et l'autre, le fétichisme et la critique, sont nécessairement indissociables. Voilà en gros ce que je voulais aborder. Peut-être que vous avez des questions. Ouais, Emma de Tenier. Tom Johnson, avec le texte?
Non,
Marianne Amacher.
Amacher.
Amacher, ouais. Amacher, en américain. Exact.
Ouais. Sur la réflexion sur
qu'est-ce que tu peux faire en scène. Ouais, c'était ça. C'était une édition extrêmement intéressante. Ouais.
Je veux bien ouvrir.
Ouais.
Allez, alors, bon, d'abord, merci beaucoup. C'était absolument passionnant, très riche et très généreux. Donc, alors, moi, j'ai plusieurs remarques et questions, donc je vais tout faire d'un bloc.
Okay.
Et comme ça, on prendra le temps qu'il faut, pour que vous pouvez répondre. Et pour... Alors, d'abord, une remarque d'ordre par rapport au post-diplôme lui-même, c'est que c'est vrai que si ma mémoire est bonne, derrière, nous avons parlé, il y a eu une introduction sur la pragmatique. Sur la définition de la pragmatique qui a été reprise aujourd'hui. Et dans la prochaine session, il y aura Philippe Baudouin qui parlera de radiophonie et de spiritisme qui, d'une certaine manière, était déjà en friche dans la question des ondes cérébrales. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même une communauté de pensée dans toute sa diversité qui se recoupe à travers certains concepts, quelles que soient les différentes approches. Quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi très important pour la cohérence du travail dans l'année. Comme la fois dernière, Fluxus s'était retrouvé à différents moments de nos rencontres. Alors, moi, j'ai donc plein des tas de petites questions. D'abord, là aussi, une remarque, alors un peu sous forme de une anecdote, en fait, c'est que tout à la fin, sur la question du silence, j'ai eu récemment à travailler sur le film de Zidane, de Parreno et de Douglas Gordon, et Zidane dit quelque chose d'absolument incroyable, c'est Zidane qui le dit. Il parle de son écoute en tant que joueur, et il dit qu'il arrive parfois, quand il était dans le stade, de se concentrer sur le bruit du ballon, ou de se concentrer, et je le cite, parce que c'est vraiment incroyable, de se concentrer sur le tic-tac d'une montre. Alors comment le joueur de football, dans ces grands stades toujours pleins desquels il participe, pouvait-il trouver, disons, en tout cas suffisamment une aire de silence pour entendre un bruit aussi délicat. Voilà, enfin, ça c'était là aussi. Voilà. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, bon, cette typologie de l'écoute est vraiment passionnante. Elle sert déjà. Maintenant, c'est aussi une typologie de l'écoute, disons que c'est une analyse sémiologique à certains égards, c'est-à-dire que bon, on analyse la position de l'écoute du producteur de signes et du compositeur. Parce que pour le récepteur, pour l'auditeur, ça peut être, ces perceptions peuvent être totalement croisées et ne peuvent pas s'exclure. On peut imaginer, alors là, il faudrait reprendre l'ensemble des définitions, mais on peut imaginer qu'il y a, par exemple, dans la question de l'écoute spatiale, par exemple, on peut en arriver à avoir une approche du son pour lui-même tout en étant dans cette écoute spatiale. Donc, j'imagine aussi qu'il y a une théorie de l'auditeur ensuite, enfin, disons, de la réception qui doit être l'alter ego, si je puis dire, même si là je parle de manière un peu schématique. De cette théorie de la production.
Et chez ces compositeurs que j'ai évoqués là, à chaque fois, de différentes manières, mais c'est toujours une position aussi du compositeur ou de l'artiste qui est pensée en termes d'auditeur. pas de la même manière à chaque fois, mais c'est bien ça qui se joue. Jusqu'à Marclay, même quand on pense à la manière dont il en est venu à la pratique, c'est un auditeur qui passe derrière l'autre côté, d'une certaine manière. Donc, ce rapport-là sont toujours un petit peu mélangés. Et en même temps, alors là, c'est vrai que je me suis concentré sur les discours des musiciens, mais notamment dans les magazines de musique expérimentale, à travers les interviews, les critiques qui sont des auditeurs, dans la manière dont ils formulent les questions, reprojettent des concepts et des idéologies qui sont assez proches. Donc ça, c'est en effet des choses qui sont mélangées complètement.
Alors, il y a plein de choses ont été dites de passionnant. Moi, j'ai été frappé par le fait que Peter Cusack, ses oiseaux à Tchernobyl, c'est très curieux. À un moment, je me suis dit, mais c'est moi qui ai ma perception totalement qui n'est plus du tout naturelle. Il y a des moments où on retrouvait la composition de l'ursonate de Schwitters. Et je me suis demandé, c'est frappant, hein. Et je crois qu'on l'a écouté la fois dernière en plus, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis quand même perverti dans mon écoute innocente, si je puis dire, ou bien est-ce qu'il y avait, or là c'est du Federico Cornu, en fait. Ouais. Ça c'est très curieux. Ça c'est vraiment, enfin bon, en même temps la question des oiseaux était aussi importante pour moi. Alors, j'avais d'autres remarques sur la question du fétichisme. Là le fétichisme, il y a aussi peut-être une autre approche. Alors, je ne sais pas comment elle intervient dans le travail, mais c'est l'approche en psychanalyse. Et dans la psychanalyse, et on travaille sur le cas de la poupée de Kokoschka, dans la psychanalyse, le fétichisme, c'est le substitut. Mais alors là, si on est dans le substitut, on se retrouve dans une relation d'absence et de présence, marche formidablement, le son. Je veux dire, dans la dimension, dans toute la dimension de la phénoménologie, dans toute la dimension du rapport entre la présence et l'absence, le fétichisme en psychanalyse est aussi une porte d'entrée, alors un peu différente, mais qui doit pouvoir nourrir le débat sur la question.
C'est vrai qu'il est extrêmement important. Là, je ne l'ai pas abordé en me concentrant notamment sur l'analyse d'Adorno, qui est, quant à lui, extrêmement critique sur la théorie du fétiche développée par Freud, et s'en écarte complètement. Il le dit très clairement dès la deuxième page, je crois, de l'essai. On balaye ça vaut rien, pour se concentrer plutôt sur un héritage marxiste. Mais en effet, on pourrait reprendre les articuler pour avoir une étendue de toutes les conceptualisations dans les sciences humaines du fétichisme.
Et puis je termine parce que évidemment quand on a un tel soin de méthode et un tel soin de comme ça d'apporter vraiment de nourrir le débat, inévitablement, si on employait le terme musique expérimentale et art sonore, et alors là j'ai envie de dire quelle définition pourrait-on en donner et finalement dans quel sens employer ce terme d'art sonore qui est si. Alors, je sais qu'il faudrait un séminaire et une invitation en soi, bon, mais en même temps, bon, je pense que ça peut vraiment intéresser tout le monde, parce qu'à un moment, il est dit, on passe de la musique au son. Moi, je partage en plus tout à fait cette approche-là. Mais c'est vrai que pour certains musicologues ou certains musiciens, il y a une espèce de... Bon, il demande un peu de préciser les choses. Moi, je suis tout à fait dans cette optique-là. Je vois très bien ce que ça veut dire. Mais en même temps, le terme d'art sonore, duquel je participe par ailleurs totalement, comment le définir, comment le nuancer finalement par rapport à la musique expérimentale.
Alors ça, c'est une énorme question.
Bien sûr, bien sûr,
je vais juste glisser quelques mots, mais c'est une question qui m'interpelle personnellement, sur laquelle j'attache de l'importance, notamment depuis que j'ai ce poste à Paris 8, qui est un poste créé en art sonore, qui est une nouveauté dans l'université française, et qui pose question sur l'intitulé. Donc, et c'est important, à mon sens, que cette nouveauté dans l'université française soit arriver dans un département d'art plastique et pas de musique. Ça, c'est une chose. Et c'est justement, là, je vais mettre en place un projet de recherche, mais avec le département de musique et le département d'art plastique, et aussi celui de cinéma, sur l'ontologie des arts sonores. Donc, c'est une question qui m'occupe en ce moment, mais là, je pourrais seulement dire quelques éléments. D'une part, je pense que le problème que peut poser la définition de l'art sonore se retrouve déjà à l'endroit des musiques expérimentales. Ça, c'est un travail que j'ai déjà mené il y a quelques années, que pas totalement fini, mais qui est sur l'histoire du terme de musique expérimentale, où on voit une multiplicité de discours qui se déploient à peu près au même moment, mais pas avec les mêmes références, etc., et qui s'opposent littéralement. Et là, de nouveau, disons de nouveau non, parce que là, je ne les ai pas présentés comme tels, mais là, un conflit majeur éclate dans l'histoire des musiques expérimentales entre Schaeffer et Cage, avec notamment un personnage intermédiaire extrêmement important, Daniel Charles, puisqu'il sera l'érudit de Cage par excellence et en même temps un disciple de Schaeffer. Et donc il est un peu entre les deux, et il y a une très belle conférence à la Sorbonne de 1971 dans la Société française de philosophie, réalisée par, donc dite par Daniel Charles, qui s'appelle « Musique et anarchie ». Donc il y a un plaidoyer en faveur de Cage. Et dans l'assistance, il y a Pierre Schaeffer, qui fait partie des discutants, et qui lui rentre dans l'art, littéralement. Il y a un conflit. Et à mon avis, ce conflit, alors on peut trouver d'autres définitions. Donc il y en a un, Schaeffer, qui envisagerait plus l'expérimentation dans un héritage scientifique, pour le dire un peu grossièrement. En tout cas, une visée presque progressiste du travail de l'écoute et du travail sur les sons, alors que Cage, l'expérimentation, la musique expérimentale, c'est quoi? Ce sont toutes les musiques dont on ne sait pas ce qui advient au moment où on les fait, ou au moment où les sons se produisent. Donc il y en a un qui est ouvert sur l'indétermination. Et là, il y a, notamment dans les années 50, les décennales de musique expérimentale organisées par Schaeffer, et c'est intéressant de voir que d'ailleurs, il y a des Américains, mais Cage n'a pas été invité, ce genre de choses. Bref, et donc il y a une multiplicité qui se met en place avec de discours, avec des conflits internes, auxquels il faudrait rajouter par exemple aussi Guy Debord, qui dans sa correspondance avec Walter Almo discute la notion, le concept de musique expérimentale de manière critique, et des critiques qu'on pourrait adresser aussi bien à Cage qu'à Schaeffer. Je signale juste simplement ça sur les musiques expérimentales parce que, à mon sens, il y aurait une multiplicité à l'intérieur même d'une pensée de l'ontologie de ce concept. Et on le retrouve, bien entendu, dans l'histoire des arts sonores. Alors, on le retrouve à plusieurs niveaux, mais selon les théoriciens qui ont déjà pu s'intéresser sur l'arrivée du terme, c'est le cas, par exemple, de Max Naus, qui est extrêmement critique sur le concept de sound art, mais qui, en même temps, a contribué à le mettre en place. En tout cas, Sound Installation, c'est lui le premier qui l'utilise, quoi. Et donc, mais en même temps, il refuse ce terme, qui pour lui est simplement le fait de vouloir toujours ranger dans une catégorie esthétique des choses qui viennent mettre en crise les catégories. Et là, en dépit des faiblesses que peut avoir un bouquin comme celui d'Alan Licht, Sound Art, Beyond and Between Categories, Beyond Music, il traduit bien dans le sous-titre ce qui se joue. C'est-à-dire que l'art sonore, dans son avènement, c'est à la fois quelque chose qui vient mettre en crise, des pratiques qui viennent mettre en crise les catégories esthétiques, ni totalement les arts plastiques, ni totalement la musique, ni totalement autre chose, et en même temps qui advient comme nouvelle catégorie. Donc c'est à la fois une nouvelle catégorie esthétique, très, très rapidement formalisée comme nouvelle catégorie esthétique, et qui met en crise les catégories esthétiques. Alors, à ça, il faut ajouter, comme bien souvent d'ailleurs dans l'appellation de courant ou d'école, d'esthétique, de catégorie, ça ne vient pas forcément des artistes, mais c'est aussi des choses qui sont générées par l'institution. Et la solidification du terme sound art est contemporain, suit l'institutionnalisation des pratiques d'art sonore qui se situaient aussi en dehors de l'institution. Pensons à un courant comme Fluxus qu'on évoquait. Si Fluxus démarre par la musique, c'est pas anodin. C'est justement dans une position critique par rapport aux arts visuels, condamnés à la marchandise, au milieu de l'art, etc. Donc, il y a cette volonté-là, et en même temps, le terme se solidifie, se cristallise à mesure qu'il est institutionnalisé. Et ça, c'est dans le bouquin de... on trouve ça, une petite histoire comme ça des rapports à l'institution... je ne me rappelle plus des noms des auteurs, Sand Artist, et puis c'est que des recueils comme ça de petits textes, un livre du début des années 90.
C'est un vendeur.
Ouais, c'est ça. Où on a comme ça un petit panorama. Et
Et donc, ce rapport-là est lui-même complexe, mais pour répondre, alors là, peut-être de manière un peu triviale, mais j'en viens aujourd'hui, en tout cas moi, là j'employais systématiquement ou presque systématiquement tout le temps les deux expressions, mais pour revenir à ta question initiale, j'en viens presque à comprendre les arts sonores comme un champ qui englobe les musiques expérimentales. Et d'ailleurs, on peut voir historiquement combien de nombreux musiciens expérimentaux se sont fait appeler sound artists parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec un terme comme musique et où ils ne se sentaient pas à l'aise avec un terme même comme expérimental qui peut être aussi synonyme de tentative, de trucs pas aboutis, d'ébauche, de brouillon, et des choses comme ça. Et donc, des artistes qui, dans les années 80, ont commencé par exemple à utiliser le terme de sound artist pour se désigner, c'est aussi bien souvent des artistes qui sont issus des musiques expérimentales, et, ou en tout cas dans cette connivence qui va être notamment... Alors là, ça englobe plein de choses, parce qu'il y a la connivence aussi à prendre en compte dans le développement de la pratique musicale dans les écoles d'art. Et ça, il y a un bouquin extrêmement intéressant de Simon Fries en sociologie, sociologue anglais, qui s'appelle Art into Pop, où il montre comment les politiques culturelles de développement de l'apprentissage de la musique dans les écoles d'art en Angleterre va favoriser aussi des approches médianes comme ça entre différentes catégories. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, mais sans doute, juste pour finir de répondre, sans doute que ce caractère un peu flou du concept de sound art, il faut le garder en tant que tel. Comme disait Wittgenstein, on n'a pas besoin forcément toujours de l'image nette en photographie pour reconnaître le visage de quelqu'un.
Les arts sonores, ça correspondrait à sound art.
Moi, je l'emploie comme ça.
Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'histoire des musiques expérimentales. Si je peux me référer à ma modeste expérience, au tout début des années 90, avant de m'intéresser au son dans les arts plastiques, il y avait un festival dans le Guy qui s'appelait le festival Mimi, mouvement international des musiques innovatrices, qui était un endroit incroyable de défricheurs de musique, hein, venu plutôt du free jazz et du post-rock, bon, mais beaucoup du free jazz. Et les musiciens que j'avais vus il y a 25 ans dans ce festival, moi, sont absolument participent de la même expérimentation que 15 ans après, les musiciens qui finalement allaient éclore dans le champ des arts plastiques et qui allaient devenir des arts plastiques pour s'attribuer à la question du son. Et c'est vrai que c'est difficile à cerner théoriquement parce qu'il y a des tas de catégories, de limites, mais intuitivement, enfin, moi je vois la logique. Je sens la filiation.
Et c'est pas une logique continue. C'est des choses qui reviennent comme ça aussi. Mais en effet, ce que tu dis, moi j'ai pas mal bossé il y a quelques temps sur l'improvisation libre européenne et des problématiques, notamment sur la création collective à travers le son, à l'œuvre dans des collectifs comme AMM par exemple, ou Spontaneous Music Ensemble avec Derek Bailey, des musiciens comme ça. Eh bien, on est en plein dans des problématiques. Du son ancré dans sa dimension sociale qu'on va retrouver chez des artistes contemporains de l'art sonore. Je pense par exemple à Laurence Abu Adams, des artistes comme ça qui redécouvrent d'une certaine manière. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Constante redécouverte de ces rapports-là. Comment, par exemple, aujourd'hui, un compositeur comme Cornelius Cardew, si important dans l'histoire de l'improvisation libre, est énormément cité, travaillé par des artistes dans le champ des arts plastiques, des artistes contemporains. Je pense à Béatrice Gibson, par exemple, ou à d'autres, qui remobilisent des protocoles de performance, d'action sonore, etc., pour les traduire dans leur propre pratique. Et en même temps, ça, c'est des choses qui ne cessent de réinvestir. Et puis, c'est la porosité, c'est ce qu'Adorno a appelé les franchements. les frangements des arts, compris à la fois comme les influences des arts entre eux, et puis comment, quand on pousse dans la logique moderniste un art jusqu'à la limite de son médium, il y a implosion. Hein. C'est l'effrangement par immanence et l'effrangement par influence, c'est les deux à la fois. Et ça, on retrouve bien entendu ça, mais dans le son, en même temps, il y a une dimension technique qui est extrêmement importante et dont il faut faire l'histoire, et qui a déjà été en partie faite. Là, je pense au travail de Maki Salomos, notamment sur l'avènement du phénomène sonore. Mais c'est tout ça qui se mélange. Et ces découvertes, en tout cas du point de vue de l'étude esthétique, sont extrêmement. Ces retrouvailles sont extrêmement intéressantes à chaque fois, je trouve.